réplique « Comment peut-on être conservateur ?» avec Jean-Pierre Le Goff et Roger Scruton. Là, des acronymes, RPF, UDR, RPR, UMP, le principal parti de la droite française a choisi de se donner un nom, un vrai nom, un beau nom compact qu'on ne puisse ni abréger ni réduire à ses initiales. Après avoir envisagé la Maison Bleue, il a opté pour un label moins estival, les Républicains. Les critiques fusent déjà. Certains dénoncent l'américanisation dont ce choix serait porteur, d'autres l'appropriation éhontée d'un vocable qui est à tous. Personne, en tout cas, ne regrette que le parti dont le bouillant Nicolas Sarkozy assure aujourd'hui la présidence n'ait pas décidé de s'appeler les conservateurs. Car le conservateur en France, c'est toujours l'autre. La droite arc-boutée à ses privilèges de classe pour la gauche défendant bec et ongles les avantages acquis pour la droite. Quant aux écologistes, ils se veulent avant tout progressistes et croient pouvoir marier le souci de préserver la terre avec la conquête incessante de nouveaux droits. Bref, conservateur dans ce pays n'est pas une qualité distinctive, c'est un repoussoir, c'est même un gros mot. Faut-il braver le consensus et rendre un peu de dignité à ce terme qui fait aujourd'hui l'objet d'une exécration unanime? C'est ce que nous verrons avec Jean-Pierre Le Goff, auteur de « La fin du village » et de mai 68 « L'héritage impossible », et avec Roger Scruton, qui étant un Englishman, a pu développer, sans être aussitôt frappé d'opprobre ou tourné en dérision, une importante réflexion sur le conservatisme. Son dernier livre s'intitule d'ailleurs « How to be a conservative ». Je remplacerai pour commencer le débat le « how » par un « why ». Pourquoi êtes-vous conservateur, Roger Scruton, et qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur ce programme. C'est très difficile à répondre, bien sûr, à votre question, parce que, comme vous avez dit, ici, le mot conservateur, c'est plutôt péjoratif. Tandis que chez nous, en Angleterre, puisque nous avons eu un mouvement conservateur pendant 2 siècles, et un parti conservateur qui se dit conservateur expressément, c'est pas la même. Nous n'avons pas le même problème. Mais pour l'expliquer aux Français, je crois qu'il faut d'abord reconnaître qu'ici la politique se mélange avec la philosophie. Être de gauche ici, c'est d'avoir une certaine philosophie, une certaine vision de la vie, une vision entière. Tandis que en Angleterre, la politique se sépare un peu de la philosophie. Et le conservatisme, comme nous l'avons conçu en Angleterre et dans d'autres pays anglophones aussi, n'est pas exactement une philosophie politique, mais plutôt une philosophie anti-politique, basée sur l'idée que la société civile doit se distinguer de l'État. Nous devons protéger la société contre l'État autant que la préserver par l'État. Cette philosophie est fondée sur, bien sûr, sur quelques intuitions de base que nous partageons avec beaucoup de gens ici en France. D'abord, l'intuition qu'il est aisé de détruire, difficile de construire. Et si on a hérité quelque chose qui est valable et qui fait du bien, pourquoi le détruire si on n'a pas d'alternative? C'est une vision qui m'est arrivée forcément en mai 68 quand j'étais ici.
De voir les gens, en France en mai 68.
Oui, j'ai vu les gens en train de détruire des institutions, des traditions que j'ai respectées, j'admirais, sans avoir rien à mettre à la place. Alors ça, c'est quelque chose qui me touche très personnellement, mais aussi Il y a pour les conservateurs comme moi, nous sommes très respectueux envers les affections qui dirigent notre vie, que les associations. Nous les préférons aux associations imposées par l'État.
Donc, qu'est-ce que vous appelez les affections qui dirigent votre vie?
Les affections entre les gens qui se forment en famille, les relations d'amour, mais aussi dans les petits groupes locaux, les petits bataillons, comme les a décrit Burke, et dans les écoles, etc. Pour nous, nous autres conservateurs anglais, ça c'est la base de notre philosophie. Notre vision du monde.
Mais alors, quand vous citez Burke, et il me semble que devant 68, vous étiez un peu comme Burke devant la Révolution française, quand Burke dit qu'il fallait ne se pencher sur les défauts de l'État que comme sur les blessures d'un père, dans la crainte et le tremblement, et avec une pieuse sollicitude. Mmh. Il reprochait leur grande présomption révolutionnaire. Mais ce qui m'étonne, c'est quand vous dites, Roger Scruton, qu'il s'agit d'une philosophie antipolitique. Il y a quand même un parti conservateur.
Oui.
Donc, il y a des conservateurs qui sont en politique. Ce parti existe. Alors, est-il là en politique pour défendre cette philosophie antipolitique? C'est ma première question. Et ma deuxième question, Margaret Thatcher a incarné le conservatisme et elle a beaucoup détruit. Et un certain nombre de films font état de ces traditions dans la classe ouvrière. Je pense à Billy Elliot, aussi un film sur un concours de fanfare dont j'ai oublié le titre, qui montre que tout ça a été balayé par des conservateurs extrêmement actifs et quasiment révolutionnaires.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, mais il faut reconnaître que si les gens se sont un peu révoltés contre Madame Thatcher à un certain moment, c'était justement parce qu'elle a évoqué dans les gens ordinaires le sentiment conservateur. Ils voulaient garder ce qu'ils valorisaient. Mmh. Et chez la classe ouvrière, c'était souvent les choses comme les syndicats, etc., les choses qui ont les institutions qui ont définit le statut dans la vie et leurs espoirs dans la vie. Mais à la fin, elle était conservatrice parce que ce qu'elle voulait faire, c'est de libérer la société civile de l'État. Elle voyait les syndicats comme une arme de l'État qui empêchait les gens de former les institutions dont ils avaient besoin.
Jean-Pierre Le Goff, votre réaction à ce type de discours, et puis ensuite évidemment une question qui me brûle les lèvres, est-ce que ce mot de conservateur, vous l'assumeriez pour vous aujourd'hui, dans ce moment de votre trajectoire politique?
Oui, je l'assumerais avec, je ne vais pas reprendre la formule de Kolakowski, c'est-à-dire être conservateur, libéral et socialiste, je dirais comment être à la fois conservateur et moderne, et non pas post-moderne, c'est un élément important. Je dirais républicain et social. Enfin, quand on parle de conservatisme en France, d'abord, évidemment, pour nous, ça renvoie à un courant en réaction à la Révolution française. Vous avez eu Burke, que j'estime beaucoup, ce qui est assez différent, à mon sens, de Joseph de Maistre. Ce n'est pas... Enfin, on trouve des aspects communs, mais nous avons affaire à Joseph de Maistre qui, d'une certaine façon, est dans la logique de la monarchie absolue,
oui.
Et non pas de la monarchie constitutionnelle avec une histoire spécifique à la France qui n'est pas celle de l'Angleterre. Alors, moi je pensais qu'il y a deux niveaux, il y a une façon de se dire conservateur d'abord par rapport à ce courant, hein, qui à mon avis en France avait des aspects réactionnaires au sens propre du terme, c'est-à-dire la possibilité de retour en arrière.
Hein, à l'Ancien Régime.
À l'Ancien Régime. Donc il y a ça. Cela étant dit, je pense que dans les conditions de la modernité, c'est-à-dire dans les conditions de la modernité en tant comme une rupture avec la tradition, la tradition sans questionnement, c'est-à-dire une tradition qui irait de soi. Dans les conditions de la modernité, il est tout à fait possible, à mon sens, de se réapproprier un certain nombre de points que j'estime fondamentaux du conservatisme. Alors, pour les dire rapidement, c'est les limites et les ambiguïtés qui ont été soulignées par ce courant de pensée du projet d'émancipation. Je parle bien de limites et d'ambiguïtés, je ne parle pas de rejet. Hein. La croyance en un progrès nécessairement positif de l'humanité, Et je dirais une conception de l'homme aussi, qui est issue de la Révolution française, mais qui a montré à plus loin, l'homme un peu naturellement bon. C'est-à-dire, je pense à Saint-Just, ôtez la tyrannie du monde, vous y rétablirez la paix et la vertu. Donc voilà pour moi des acquis fondamentaux. Je m'appuierai volontiers sur Hannah Arendt, c'est-à-dire c'est parce que, d'une certaine façon, nous vivons la modernité, que nous sommes capables de réinterroger la tradition avec plus de liberté qu'antérieurement. C'est-à-dire la tradition ne va plus de soi, et le fait qu'elle n'a plus de soi, je le prendrai comme une chance. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est je me situe, alors là, dans mon parcours, si vous voulez, ce qui s'est passé, je dirais, dans la seconde moitié du XXe siècle.
Parce que vous venez de la gauche.
Oui, oui, absolument. Oui. Mais je me sens de gauche sur un certain nombre de points.
Vous restez de gauche.
Alors, je reste de gauche. Je retiens ce qui a été dit, c'est-à-dire la gauche en France, c'était une vision globale. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dissocier le vote politique d'une espèce de conception du monde. Pourquoi les gens de gauche ont tellement de mal, je veux dire, à être libres, même intellectuellement? C'est parce que quand ils réfléchissent sur un problème, mais ma pensée est telle de gauche, qui pour moi est absolument absurde du point de vue, j'allais dire, du libéralisme intellectuel, mais c'est encore comme ça. Malheureusement, il y a une gauche que j'appelle bête et sectaire, où la question de l'identité l'emporte sur la question de la vérité. Et malheureusement, c'est à quoi j'assiste aujourd'hui. J'ajouterai un point dans les conditions actuelles, pourquoi la question du conservatisme tout en étant moral, et je dirais deux mots sur la question sociale, c'est que je pense que nous sommes dans une période de ce que j'ai appelé la fuite en avant moderniste, qui n'est pas le mouvement de la modernité au sens de l'émancipation, c'est-à-dire par les lumières, par l'individu qui se dégage de ses appartenances premières. Nous sommes dans un individualisme autocentré qui est largement un individualisme de déliaison, avec des phénomènes que j'appelle de déstructuration anthropologique. Ça, c'est le deuxième niveau. Pourquoi le terme conservateur, si vous voulez, je ne le rejette pas, au contraire, je peux me l'approprier. Mais encore une fois, dans les conditions de la modernité, et je dirais, dans les conditions, j'ai parlé de républicains. Pourquoi? Qu'est-ce que je garde, finalement, de la dimension républicaine? Parce qu'il y a une critique. Je garderai un idéal régulateur qui ne correspond jamais avec les faits, qui est celui d'un espèce d'effort que l'individu doit faire sur lui-même en tant que citoyen pour s'extraire de ses communautés premières d'appartenance et se penser à égalité par l'usage de la raison avec les autres. Voilà. Bon, ça, c'est un idéal qui ne coïncide jamais avec les faits. Jamais. Il y a toujours une tension. Mais pour moi, je suis conservateur républicain dans ce sens-là. Mmh. Je dirais que sur la dimension du socialisme, je garderai quelque chose. Mais ce n'est pas, à mon avis, le socialisme en tant que nouvelle étape de l'humanité. Ça, je pense que tout ça est mort. Je pense que le mouvement ouvrier, tel qu'il a existé depuis le 19e siècle, est mort. Qu'on le veuille ou non, on peut le regretter, etc. Mais je pense qu'il est mort. Ça ne veut pas dire que tout est à rejeter, mais il n'a plus la dynamique historique qu'il a eue depuis le 19e siècle. Et avec, je dirais, une dimension morale qu'a souligné Orwell notamment, qui était liée à des traditions ouvrières, en Angleterre notamment, parce que Orwell s'est appuyé sur ses coopératives, sur ses associations, sur ses syndicats qui existaient. Tout ça, à mon avis, est mort, mais je garde une idée. Je crois que c'est un antifasciste italien qui disait « Le socialisme, c'est quand la liberté arrive chez les plus pauvres ». Et ça, parmi l'héritage, je garde cette idée, si vous voulez, qui, à mon avis, est celle aussi qui peut très bien intégrer la dimension républicaine et sociale.
Alors, d'ailleurs, dans votre livre, vous cherchez aussi ce qu'il peut y avoir de vrai dans l'internationalisme, dans le socialisme également, oui. Roger Scruton. Et alors, un mot simplement sur le credo de Kolakowski, qui a été publié simultanément en Angleterre, je crois, et en France. J'y ai fait référence à plusieurs reprises dans cette émission, et en effet, c'est un texte très court et très impressionnant. Pourquoi je suis conservateur, libéral, socialiste. Conservateur, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais dans la vie des hommes d'amélioration qui ne soit payée de détérioration et de maux. Et je cite aussi Kolakowski, le conservateur croit fermement que l'idée fixe de la philosophie des Lumières, à savoir que l'envie, la vanité, la cupidité et l'instinct d'agression ont toujours pour cause des institutions sociales défectueuses et disparaîtront lorsque ces institutions auront été réformées, n'est pas seulement tout à fait invraisemblable et contraire à l'expérience, mais extrêmement dangereuse. Comment toutes ces institutions ont-elles pu voir le jour si elles étaient totalement contraires à la nature profonde de l'homme, nourrir l'espoir qu'on pourra institutionnaliser la fraternité, l'amour, l'altruisme, c'est préparer à coup sûr l'avènement du despotisme. Le libéral a raison de penser que les communautés humaines où l'initiative individuelle est bridée et la concurrence anéantie, ces communautés connaissent la stagnation et le ressentiment. Et enfin, le socialiste a raison de penser qu'une communauté où le marché régnerait en maître dans tous les secteurs de la vie ne serait pas plus viable au bout du compte que les sociétés où le stimulant du profit a été entièrement rayé du nombre des forces régulatrices de la production. Ouais. Donc voilà ce que dit Kolakowski. Alors est-ce que vous reprenez, vous, ce credo à votre compte, Roger Scruton, ou est-ce que vous insistez quand même particulièrement sur la dimension conservatrice ?
La dimension conservatrice, c'est ce que défend. Je défends, bien sûr. Je suis opposé tout à fait à l'idée de Saint-Just et de Rousseau, qu'il y a une bonté naturelle chez les hommes qui peut arriver, qui se révèle dès que les institutions sont retirées. C'est, la vérité, c'est l'opposé, selon moi. C'est grâce aux institutions, aux traditions, aux formes de vie que nous partageons, que nous avons des valeurs au premier. Et puis, c'est grâce à ces institutions que nous sommes capables de renoncer à nos ambitions pour le bien des autres. Toujours, je crois que c'est justement ce que voulait dire Burke dans sa réponse à les gens qui ont Rousseau et Saint-Just, enfin Rousseau plutôt, parce que Saint-Just, je ne crois pas qu'il ne le connaissait, mais sa réponse était que c'est bien de vouloir que les gens s'aiment, que les gens soient libres, que les gens ont des relations bienfaisantes l'un avec l'autre, mais d'enlever les institutions qui créent la possibilité de réaliser ces valeurs veut dire qu'on les détruit.
Alors justement, vous avez insisté aussi, Jean-Pierre Le Goff, sur cette dimension-là, l'anti-rousseauisme des conservateurs, parce que Rousseau, c'est un philosophe paradoxal, c'est le premier critique du progrès, mais c'est en un sens l'inventeur du progressisme, puisque précisément, il assigne à la politique cette espèce de visée illimitée, éradiquer le mal. Le mal naissant de l'inégalité, on peut en finir avec le mal si précisément on supprime ses causes, à savoir l'oppression. Donc pouvoir illimité de transformation, conféré en quelque sorte à la politique, ce qui a conduit, je ne sais pas si vous irez jusque-là, certains penseurs du XXe siècle, dont notamment Kolakowski, mais pas seulement lui, également Horkheimer, les théoriciens de l'école de Francfort, à réhabiliter partiellement la notion de péché originel. Bien sûr, c'est pas de manière, si vous voulez, littérale, mais l'idée de péché originel, c'est-à-dire d'une caducité, d'une finitude, d'une incapacité de l'homme à se délivrer totalement du mal, contre l'ambition hyper prométhéenne qui est dans Rousseau. Est-ce que pensez-vous justement de cette réhabilitation étrange dans la philosophie politique du péché originel?
Moi, je pense qu'on touche là une dimension de l'anthropologie, et notamment de l'anthropologie chrétienne, qui pour moi est essentielle. Je parle bien d'anthropologie, la question de la foi, c'est autre chose, mais je pense qu'en effet, un des noyaux, si vous voulez, de la pensée révolutionnaire, mais je dirais de la pensée progressiste, un peu de gauche qui est restée, c'est que l'homme est bon, donc il est nécessairement, ce ne peut être qu'une aliénation de sa bonté, ça peut être que des effets de domination, mais en lui-même, alors que précisément, je pense qu'il y a un pessimisme dans le courant conservateur, qui pour moi est synonyme de lucidité. Lucidité vis-à-vis de la part sauvage que l'individu, non pas pour s'y complaire, etc. Ce qui veut dire, comme vous le dites, l'importance accordée aux institutions par la pensée des conservateurs. Alors que, à gauche, on a tendance à dire, il suffit de les enlever d'une certaine façon pour que la bonté s'exprime. Donc je pense effectivement que cette question du mal, pour reprendre cette expression, oui, elle est présente, et je pense qu'il y a une dimension d'anthropologie chrétienne auquel, qui fait partie, à mon avis, de l'héritage et que je peux revendiquer comme tel sans pour autant partager l'autre ensemble. Non pas pour tomber, parce que quand on parle péché originel, évidemment, c'est tout de suite la culpabilité morbide. On peut tout à fait le prendre dans la dimension d'anthropologie sociale et historique, si vous voulez. Ce qui est une autre façon de prendre le problème.
Oui, enfin,
Roger Scruton.
Oui, l'idée de du péché original, c'est une métaphore pour quelque chose dont tout le monde a connaissance. C'est notre héritage biologique qui sera toujours là et qui exige que nous sommes des agresseurs l'un envers l'autre. Nous sommes en compétition, en concurrence pour les biens de la vie. Et aussi, enfin, il y a des gens comme, par exemple, René Girard, ici en France, qui croient que c'est ça à la base de la société, la concurrence, le désir, comment il dit, mimétique qui exige que les gens sacrifient l'un de leur nombre pour le bien commun. On le voit partout, ce genre de motivation sociale.
Oui, sauf que René Girard est un utopiste à sa manière, parce qu'il parle de cette violence mimétique qui exige le sacrifice, le bouc émissaire, etc. Mais à cela, il oppose l'amour.
Oui, d'accord.
Qui est vraiment une utopie dont il dit qu'elle est chrétienne,
qui doit
en quelque sorte renverser complètement la violence mimétique.
Oui, mais quand même, ils veulent que ça soit renversé, pas par la politique, pas par des systèmes du gouvernement, mais dans l'âme de l'individu. Oui. En suivant l'exemple que nous a fait Jésus, en se donnant comme bouc émissaire, comme vous avez dit.
Mais alors, maintenant, avant de poursuivre le débat sur le conservatisme lui-même, et notamment sur les difficultés de l'acclimater en France, vous avez lancé quelques pistes, Jean-Pierre Le Goff, avec la comparaison entre Joseph de Maistre et Burke, et nous y reviendrons, mais je voudrais un peu d'éléments biographiques à l'un et à l'autre. D'abord, Roger Scruton, avez-vous toujours été conservateur? D'où vous vient? Parce que, en France, jeune, on est spontanément de gauche. On pense que la gauche incarne la générosité, qu'elle est universaliste, etc. Peut-être y a-t-il une évolution ensuite. Comment ça s'est passé pour vous?
Je suis élevé dans une famille socialiste. Et j'étais assez opprimé par mon père. À cause de ces sentiments socialistes qui s'exprimaient par des ressentiments très forts envers la classe supérieure, envers la propriété privée, etc. Alors, j'ai réagi très jeune contre ce genre de ressentiment. J'étais Nietzschéen. Nietzschéen, on dit
peut-être. Nietzschéen, oui.
Nietzschéen à l'âge de 16 ans. Mais puis, après, j'étais sans politique jusqu'à ce que je suis venu en France en mai 68. Et tout de suite, je suis devenu conservateur. En voyant les gens dans la rue, au fond du bâtiment où je me suis installé.
Il y a quand même une part aussi de conservatisme dans le socialisme anglais, et je pense notamment à ce personnage qui est de plus en plus influent en France, George Orwell.
Oui, voilà.
Orwell, anarchiste Tory, pour reprendre l'expression de Jean-Claude Michéard, et un homme qui parle de cette décence commune, qu'il oppose à toutes les réductions sociologique, qu'il voit à l'œuvre dans la classe ouvrière. Je pense aussi à Richard Hogarth, La culture du pauvre, etc. 33 Newport Street. Et donc c'est une dimension qui est présente en Angleterre et qui manque un peu, qui n'a pas vraiment son équivalent en France, me semble-t-il.
C'est vrai. Chez le bon côté de mon père, c'était justement ce côté orwellien. Et c'est lui, il s'identifiait tout à fait avec la classe ouvrière comme ça l'était pendant la guerre. C'était la classe dans laquelle le patriotisme, c'est le plus profondément enfoncé. Et mon père était très sensible au fait qu'il y a beaucoup des intellectuels qui ont trahi le pays pendant la guerre en faisant partie des systèmes des espions soviétiques, tout ce genre de choses dont on est familier ici en France aussi. Alors, il y avait une espèce de nostalgie chez lui pour la classe ouvrière, comme le décrit Orwell. Orwell aussi avait cette nostalgie. Et lui, comme vous avez très, très bien raison, c'était un Tory à la fin. Il avait le même sens de communauté que Burke a exprimé dans ses réflexions sur l'heure. Révolution française.
Même question pour vous, Jean-Pierre Le Goff. Comment s'est passée votre révolution? J'ai sous les yeux votre livre. Mai 68, l'héritage impossible. C'est pas votre livre le plus récent, le village français. Mais justement, il a été publié à La Découverte, la collection qui a les maisons d'édition qui succédé à Maspero. Et il est préfacé en poche par François Gèze, qui est quand même le directeur de La Découverte et qui a conduit, cette maison vers des positions, très radicales, multiculturalistes, etc. Alors, comment les choses se sont... Vous êtes un auteur de La Découverte, vous écrivez L'héritage impossible. Comment ça s'est passé pour vous?
Moi, si vous voulez, au départ, je ne vais pas reprendre, mais j'étais en classe de philo, j'étais aussi nietzschéen, enfin bon, il y avait Jaspers, Heidegger, j'avais un professeur de philosophie, ces rencontres que vous faites dans une vie qui vous marque, et arrive mai 68. Et arrive mai 68, et vous êtes entraîné, c'est-à-dire vous partez sur autre chose. Et moi, je l'ai vécu de l'intérieur comme une véritable libération. Et j'ai essayé, à travers ce livre, ce qui n'est pas facile, d'avoir la bonne distance. Pourquoi ? Parce que cet événement ne cesse d'osciller entre fascination et rejet depuis 40 ans. Et j'estime qu'aujourd'hui, on est largement dans la période de revanche. On a eu la période... je dirais apologétique, qui a duré quand même pendant un certain temps, où les 68ards arrivés au pouvoir nous ont donné un récit pour jeunes enfants, j'allais dire. Tout mon travail à partir de 98, c'est de dire essayer de faire la part des choses pour autant que cela soit possible. Alors, c'est pour ça que sur 68, je pense qu'on est dans une logique aujourd'hui, que j'entends notamment à droite, il faut liquider mai 68. Je trouve que cette formule n'a aucun sens, dans la mesure où si vous resituez mai 68 dans un mouvement plus global de l'évolution des sociétés démocratiques, moi je ne coupe pas mai 68 de ce qui s'est passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'entrée des sociétés dans une étape radicalement nouvelle de leur histoire, ce qu'on pourrait appeler la société de consommation et de loisirs. Et en même temps que cela, la venue sur la scène publique d'un nouvel acteur historique qui s'appelle la jeunesse, et plus exactement l'adolescence scolarisée. Ça concerne un ensemble de sociétés. Ce mouvement de fond des sociétés démocratiques va prendre une figure différente selon l'histoire propre des pays. En Angleterre, la pop music est quelque chose... En France, il y avait une tradition révolutionnaire qui existait là. Or, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Je distingue l'événement lui-même. L'événement, pour moi, c'est ce moment de basculement, de catharsis en France, où tout est mis sur la place publique dans une espèce de fête du langage assez incohérente, et vous avez raison, aussi fumeuse, etc., mais dont le marxisme n'est qu'un élément. Vous regardez les textes, vous avez du personnalisme, vous avez du situationnisme, vous avez du suralisme. C'est un espèce de méli-mélo incroyable qui est un moment avec une question qui ressort et que je pense même Raymond Aron l'a posé en parlant de désillusion du progrès. C'est-à-dire, dans 68, vous avez une question qui est présente. Je ne résume pas mes 68, bien évidemment, cette question. La société a été bouleversée en peu plus de 20 ans, à une grande vitesse. Toute la fin du 19e siècle, en France notamment, a été bouleversée en 20 ans. Et à ce moment-là, il y a un moment de pause et de catharsis, de grand déballage, si vous voulez, on arrête. Voyons, sommes-nous heureux? La modernisation, oui, Mais pour aller où et pourquoi faire? Ça, c'est à mon avis un noyau que je ne rejette absolument pas. Mmh. Ce qui s'est passé.
Et ensuite, vous étiez vous-même un 68
heures. Et moi, j'étais à totalement 68 heures. Ah, pour moi, c'était merveilleux. J'étais jeune, j'ai découvert l'anarchisme. Bon, après, je suis rentré par tout un parcours dans des groupes sectaires marxistes-léninistes. Et j'en suis revenu. Donc, j'ai parcouru, je suis assez typique de cette génération qui est allée un peu au bout de ses rêves. Alors, on vous dit, vous avez changé. Ben, j'espère bien, parce que avoir les mêmes idées qu'en politique à 16 ans ou 17 ans et s'en vanter quand vous en avez 50, je trouve que c'est pas, si vous voulez, particulièrement gratifiant. Et donc, il y a une évolution aussi dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne suis pas si négatif que ça sur mai 68 comme mouvement d'ensemble des sociétés démocratiques. Par contre, là où je suis extrêmement critique, c'est ce que j'appelle l'héritage impossible qui s'est développé, en fait, surtout dans les années 70. Et avec trois points de cet héritage impossible, qui est l'autonomie individuelle érigée en absolu, la critique radicale de tous les pouvoirs, l'autorité assimilée au pouvoir, à la domination, un troisième point qui est très important, le règlement de compte historique et civilisationnel, avec, je répète, les acteurs de 68 sont différents des acteurs d'aujourd'hui, c'était des héritiers rebelles, je vais dire, mais des héritiers malgré eux et quand même.
Bon, oui, c'est, vous avez l'air vous nous avez donné toute une philosophie de 68, ce que je n'ai pas, il faut dire. Mais en réponse, je dirais tout simplement quelque chose que je prends plutôt de la philosophie de Hegel. L'idée que la vie, toute la vie, la connaissance, la liberté, toutes les valeurs humaines commencent par une espèce d'enfoncement immédiat dans les choses. Et on devient rebelle contre, on aliène ses puissances, on se met contre ses parents, contre les institutions, contre la propriété privée, contre toutes ces choses pour affirmer son individualité comme homme libre. Et ça, c'est nécessaire pour tout le monde. Mais c'est nécessaire aussi d'aller plus loin, de compléter la dialectique et revenir chez soi, dans une condition de connaissance, pour savoir ce que c'est vraiment d'être homme libre, d'accepter quand même d'être libre et aussi une forme d'obéissance, d'obéir aux autres et se réconcilier avec les autres. Et ça se passe dans la vie personnelle aussi, cette réconciliation avec les parents. C'est ça dont vous parlez aussi un peu.
Oui, mais alors justement, il me semble que tout se cristallise en fait autour de la question de l'héritage, même la réconciliation avec l'héritage. Vous avez très bien dit, Jean-Pierre Le Goff, que les 68 arts étaient des héritiers malgré eux. Vous avez dit un peu plus tôt dans la discussion que c'est vrai, les premiers conservateurs français c'était Joseph de Maistre qui voulait revenir à la monarchie absolue et un penseur libéral du 19e siècle, Rémusat, cité par Philippe Renaud dans sa préface aux réflexions sur la révolution de France de Burke. Rémusat disait donc que le problème des Français c'était évidemment d'instaurer la liberté et non pas de protéger ou de restaurer des droits précédents acquis. Donc il y avait une vraie différence entre l'Angleterre et la France de ce point de vue-là. Mais, et c'est là que j'en viens à l'héritage, il me semble qu'il y a eu une tentative de conciliation, quelque chose de burkéen en France, avec la Troisième République. J'ai sous les yeux le livre de Mona Ozouf, Jules Ferry, La liberté et la tradition, un livre absolument magnifique, et elle présente Jules Ferry justement comme un homme qui voulait allier la liberté et la fidélité, enseigner l'héritage, la fidélité à l'héritage, écrit-elle, est ce qui vient chez cet athée déterminé combler le vide spirituel des temps démocratiques. Elle dispense la seule immortalité à laquelle désormais les hommes peuvent prétendre, la survie dans le cœur de ceux qui les ont aimés. Et la Troisième République a vraiment voulu enseigner l'héritage et tout l'héritage, et l'offrir au plus grand nombre. Et c'est précisément ce qui semble absolument remis en cause aujourd'hui par les différentes réformes de l'enseignement, notamment Manuel Valls disant récemment que il fallait importer dans les cours l'art de intégrer dans les écoles l'art de l'improvisation que porte Jamel Debbouze, sa ministre parlant de l'improvisation comme d'une façon d'apprendre à vivre ensemble. J'ai aussi relu les 300 propositions pour changer la France de Jacques Attali. Eh bien, il s'agissait de développer les aptitudes spécifiques, linguistiques, artistiques, sportives et créatives, au détriment des connaissances académiques, et était mise en cause l'insistance sur la seule capacité à mémoriser. La mémoire considérée comme précisément ce dont l'éducation doit défaire en quelque sorte les enfants. Donc il y a un nouveau rapport à l'héritage qui s'instaure aujourd'hui, et c'est là précisément que l'urgence du conservatisme peut apparaître, Jean-Pierre Leboeuf.
C'est dans ce contexte-là que j'estime un contexte qui est allé très vite. C'est-à-dire, il y a un lien avec 68, mais il n'est pas direct. Enfin, 68 n'est pas responsable de tous nos maux, j'allais dire. Par contre, on ne peut pas dire « je n'ai pas voulu ça » sans s'interroger sur les conditions de déstructuration liées à l'héritage impossible de mai 68. Mais j'y rajouterai un autre point qui n'est pas 68, qui est la conjugaison d'une déstructuration anthropologique et qui contribue avec le chômage de masse, qui, sur des catégories entières de la population, constitue une déstructuration anthropologique profonde, si vous voulez, une espèce d'errance anthropologique. Bon. Cela étant dit, je pense que sur, si vous voulez, mai 68, il y avait une dynamique, j'allais dire, de contestation, parce que en face existaient encore des pouvoirs qui s'assumaient comme tels, des politiques qui savaient dire non, qui ne faisaient pas du surf sur les évolutions problématiques. Et c'est dans cette rencontre, si vous voulez, entre des pouvoirs forts, qui étaient encore forts, qui, des hommes politiques qui affirmaient un certain nombre de convictions, face à des jeunes révoltés, avec une part de nihilisme que je ne nie pas, hein, dans cette révolte qui était présente. Je dis bien une part. Là, il y avait une espèce de dynamique. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique d'affaissement, ce qui est très différent. C'est-à-dire que là où il y avait une logique de contestation, là, nous avons affaire à ce que Philippe Muret appelait les nouveaux mutins de Panurge, c'est-à-dire des conformistes qui se croient totalement anticonformistes. Oui. Ce qui n'était pas le cas, je ne veux pas défendre ma génération, mais je crois que ce n'était pas du tout dans cette logique-là, si vous voulez. Même si nous avons une part de responsabilité, mais je la suturerai très précisément, non pas globale, etc., dans la rupture, dans la transmission.
Oui, mais ce que vous avez dit, Monsieur Finkielkraut, sur l'éducation, c'est pas un problème seulement France.
Justement.
Nous avons eu la même chose en Angleterre et aux États-Unis, surtout. C'est une espèce de sentimentalisme rousseauiste. Ouais. Et c'est le même RSI. On n'a qu'à laisser les enfants s'exprimer et la bonté sera le résultat.
Mais alors justement, pourquoi l'Angleterre n'a-t-elle pas trouvé mieux que la France les moyens de résister? Hannah Arendt dit, pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire à chaque enfant, l'éducation doit être conservatrice. Elle ose ce mot. Et en effet, on intègre les enfants dans le vieux monde, et un monde forcément plus vieux qu'eux. On ne peut pas leur enseigner l'avenir, ni les œuvres qui n'ont pas encore été écrites. Donc l'éducation regarde en arrière, mais puisque le conservatisme est admis comme tel en Angleterre, pourquoi l'Angleterre n'a-t-il pas su maintenir un système d'éducation qui fasse sa place centrale à justement la transmission de l'héritage?
Alors, c'est une bonne question, parce que il faut dire que ce genre de sentimentalisme égalitaire, c'est la philosophie de base du système public d'éducation. Ce sont les écoles d'État qui le suivent. Tandis que nous avons une grande tradition d'écoles privées dans lesquelles ce genre d'éducation expressiviste n'est pas accepté. C'est-à-dire, on croit que le but but de l'éducation, c'est la connaissance. Les connaissances, les connaissances exigent la discipline. Ça exige les langues étrangères, les langues classiques, les choses difficiles à apprendre. Et ça existe toujours dans les écoles privées. Et ça se voit dans la politique parce que presque la plupart de nos politiciens qui arrivent en Angleterre, même les politiciens de gauche, sont les produits des écoles privées. Pas des écoles publiques. Oui. Alors, je suppose qu'il doit y avoir quelque chose un peu semblable ici en France, je ne sais pas.
En tout cas, il y aura de plus en plus quelque chose comme cela, parce que si, enfin, je parle en mon nom, mais si l'enseignement public continue dans la voie qu'il s'est tracée, les parents un peu lucides et qui ont les moyens de le faire retireront leurs enfants de l'école publique pour précisément qu'on continue à enseigner les disciplines avec la discipline et que précisément la transmission des connaissances prévale sur je ne sais quel appel à la créativité ou aussi sur le fétichisme informatique qui accompagne justement le
russoïsme. Ça, c'est notre problème aussi.
Il y a un auteur, je ne sais pas si vous le lisez, Jean-Pierre Le Goff, mais un auteur anglais qui aujourd'hui en France aussi est de plus en plus lu. Est-il Roger Scruton pour vous une des incarnations du conservatisme? C'est Chesterton.
Ah oui, bien sûr.
Parce que c'est lui qui dit « Je n'ai jamais compris d'où venait l'idée que la démocratie s'oppose à la tradition. Il est évident que la tradition n'est que la démocratie prolongée à travers le temps. Cela signifie faire confiance à un consensus de voix humaine ordinaire plutôt qu'à une histoire isolée ou arbitraire. On pourrait définir la tradition comme une extension du droit de vote au passé. Elle consiste à accorder le droit de suffrage à la plus obscure de toutes les classes, celle de nos ancêtres. C'est la démocratie des morts. La tradition refuse de se soumettre à la petite oligarchie arrogante de ceux qui ne font que se trouver par hasard sur terre.
Oui, c'est Burke aussi qui a dit la même chose, que le contrat social devrait être un contrat entre les vivants, les morts et ceux qui sont à venir.
Vous reprendriez cette formule à votre compte?
Oui, enfin, je parlais un Jean-Pierre peu du présent dans lequel nous vivons. Ce présent est déconnecté du passé, qui est devenu soir un garde, ne parle pas, et déconnecté de l'avenir. Et je parle souvent de présent existentiellement flottant, qui est recouvert par un activisme des individus eux-mêmes, dans une espèce de fuite éperdue. Je pense qu'il y a une dimension de fuite existentielle des sociétés qui sont déconnectées de l'histoire, au sens de la réarticulation du présent au passé et à l'avenir. Et en même temps, on assiste, du point de vue politique, à une suractivité managériale, comptable, le nez dans le guidon, d'un présent qui devient autoréférentiel. Et la formule qui résume le mieux ça, c'est « le changement, c'est maintenant ». Puisque le changement, c'est indéfiniment maintenant.
Alors justement, ça c'est très important, ça nous permettra d'ouvrir peut-être un ultime chapitre. Il y a un culte du changement, notamment en France. Le changement, c'est maintenant, était le slogan de François Hollande lors de la dernière campagne présidentielle. Or, il y a une occurrence du changement à laquelle on devrait réfléchir, le changement climatique. Parce qu'on ne sait, c'est pas forcément un réchauffement, changement climatique. Voilà un changement très puissant qui nous tombe dessus, qui prouve bien que le changement n'est plus tellement ce que nous faisons, mais ce qui nous arrive. Et ça m'amène à la question de l'écologie. Face à ce changement, il faut savoir résister. L'écologie devrait être une morale et une politique de la préservation des choses qui nous sont précieuses. Ça peut être la terre, mais ça peut être aussi le paysage. On veut détruire les platanes sur les bords des routes aujourd'hui au nom de la sécurité routière. Enfin, les platanes font partie du patrimoine, donc on peut élargir l'écologie, l'élargir éventuellement à la langue aussi, qui est notre héritage et qu'on abîme beaucoup ces temps-ci. Donc comment se fait-il qu'avec cette urgence écologique, les écologistes n'aient pas repris à leur compte un certain conservatisme?
Je pense que les écologistes politiques, c'est bien de ceux dont on parle en France, ont une dimension de ce que j'appellerais du gauchisme culturel, où la question des mœurs est quasiment aussi importante que la question de l'environnement. Oui. Faut jamais oublier, notamment l'éducation des enfants, qui est un élément important. Le principe de précaution qui est mis en avant concernant les espèces protégées, végétales ou animales, n'est absolument pas mis en avant dès qu'il s'agit des enfants, par exemple. Oui. Ça, c'est une énormité, on l'a dit, mais ça ne gêne pas. Il y a cette vision d'un progressisme et de gauchisme culturel qui ont le sentiment d'être propriétaires du bien, d'une certaine idée du bien. Et à la différence des révolutionnaires passés, ce n'est pas évidemment par la violence ou la dictature, c'est par l'éducation et la communication, notamment à l'école. Et nos ministres de l'éducation nationale sont, à mon avis, des petits idéologues. Quand vous regardez ce qui s'est passé, notamment à travers le genre, mais encore aujourd'hui, sous beaucoup d'aspects, qui vont au bout d'une logique où on fabrique, pour moi, non pas des citoyens, mais des parfaits conformistes, avec une façon de valoriser les enfants comme jamais historiquement cela n'a été fait. Et on dit on fabrique des citoyens, on fabrique des gens qui vont répéter ce qu'ils entendent, si vous voulez. Et c'est très inquiétant, je pense qu'on est arrivé au bout de ce point-là. J'insisterai juste sur un point, c'est-à-dire que pour moi, la question du passé, de la préservation, elle est liée en même temps à une réinterrogation de ce qui, dans l'héritage, peut nous aider à construire l'avenir. Elle n'est pas simplement un retour sur ce qui existe déjà. Je pense qu'il y a un lien, on ne va pas dire dialectique comme dans l'ancien temps, mais un lien entre cette réinterrogation du passé libre, en fonction de parce que nous sommes dans les temps modernes, parce que la tradition ne va pas naturellement de soi, et en même temps voir comment il peut exister des potentialités dans cet héritage pour construire un avenir d'ensemble, si vous voulez. Donc il y a un lien entre passé et sinon. Le risque, évidemment, et c'est un peu peut-être chaque courant à son travers, le risque du conservatisme, c'est d'une certaine façon la nostalgie, l'illusion possible, je ne dis pas que c'est automatique, c'était quand même absolument mieux avant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des périodes critiques de l'histoire, mais je dis aussi que, il n'y a pas de progrès sans perdre quelque chose. Il n'y a pas d'âge d'or dans l'histoire. Et une des plus grandes difficultés que nous avons à penser par rapport à une mentalité angélique, c'est de dire, non seulement l'homme est naturellement bon, mais nous avons à gagner sur tous les plans. Quand nous gagnons quelque chose, d'une certaine façon, nous abandonnons autre chose. Ouais. Et ça, c'est une mentalité, j'allais dire, d'enfant gâté, d'une certaine façon, qui est le fruit de l'éducation, de la déstructuration de l'éducation qui a existé depuis une trentaine d'années, pour ne pas remonter un demi-siècle.
Et alors, Roger Scruton, justement, quelle part prend la préoccupation écologique dans votre conservatisme? Et pensez-vous que les écologistes, pas tentés, les écologistes qui ont pignon sur rue, justement, font écho à cette préoccupation majeure? Oui.
Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire un peu avant, Monsieur Le Goff, sur le besoin d'une écologie bien plus large que ce que nous a proposé l'écologiste de gauche. Ce n'est pas seulement le climat qui change, c'est tout nos alentours culturels, linguistiques et aussi démographiques. Alors, il va falloir arrivons à savoir exactement ce que nous devons préserver et auxquelles choses il faut que nous nous adaptons. Et ça, c'est la grande question que les écologistes de gauche ne veulent pas poser. Parce que notre habitude de s'adapter est justement ce que nous autres conservateurs veulent souligner dans toutes ces questions. Nous avons un héritage du passé, nous avons une nature qui a été formée par une civilisation quelconque qui nous a donné beaucoup de bonnes choses, et surtout des systèmes de droit, des villes, des campagnes, des façons de vivre que nous comprenons. Mais bien sûr, nous sommes envahis par des forces qui les menacent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un choix entre ceux qu'il faut accepter et ceux qu'on peut résister. Et ça, c'est le conservatisme normal.
Alors justement, mais là, Jean-Pierre, je me tourne vers vous. Pour faire ce choix, il faut peut-être faire droit, au moins partiellement, je dis bien partiellement, à la nostalgie. Aujourd'hui, la nostalgie devient une attitude quasiment criminel. J'ai entendu le président de la République, à l'émission Le Supplément, nous dire ceci: le pire en ce moment, que je trouve capable de rétrécir tous nos horizons et toutes nos ambitions, c'est d'avoir de la nostalgie. La France, c'est pas une nostalgie, sic. La France, c'est un avenir. La France, c'est une chance. Mais c'est une phrase épouvantable, épouvantable. La France, c'est aussi une nostalgie. Et puis l'humanité, la vie des individus est faite de nostalgie. Et puis il y a des choses dont on peut regretter la perte et des choses que précisément la nostalgie peut nous amener à reconquérir, à faire revivre. S'installer dans la nostalgie est peut-être pathologique, mais criminaliser la nostalgie est absolument, je ne sais pas comment dire... terroriste.
Non, mais la fin du village, je n'ai eu que ça. Si voilà. Dans l'étude, j'ai fait des dizaines de conférences en province. Non, mais est-ce que vous n'êtes pas nostalgique ? En fait, les gens le sont, mais n'osent pas se l'avouer. Si voilà, vous voulez. Oui, beaucoup n'osent pas se l'avouer parce que politiquement, c'est pas très correct de le dire. La nostalgie fait partie des sentiments humains tout à fait nobles. Elle passe aussi par la poésie, elle passe aussi par la littérature. La question que je poserais simplement, c'est quand on fait de la politique, si vous voulez. Quand on fait de la politique, c'est-à-dire on essaie malgré tout de construire un projet à partir de ce qui existe, en interrogeant le passé. Je crois que le terme nostalgique ne peut pas être appliqué dans ce champ-là. D'accord. Donc en politique, pour moi, non. Je pense que il y a même aujourd'hui, par exemple, une passion pour le patrimoine, si vous voulez, en France, ou une façon de voir le passé. On lui donne un coup de chapeau, mais il ne nous parle plus, si vous voulez. Oui. On n'a plus de ressources de ce passé. Il y a une façon de le célébrer de façon enthousiaste, par la fête, par les événements multiculturels, les grands voiliers, etc. Mais on n'en sort plus rien pour affronter le présent et pour construire l'avenir.
Vous voulez dire quelque chose? Oui, enfin, je voulais tout simplement dire qu'il y a une autre sorte de nostalgie, une nostalgie à la gauche, qui est une nostalgie pour l'avenir, ou pour ce qu'on ne connaît pas, pour les autres, et pas pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très destructeur.
Oui, ça c'est destructeur. Et puis, peut-être le mot nostalgie ne peut pas tout à fait s'appliquer, mais je suis sensible par exemple à l'évolution de quelqu'un comme Roland Barthes, qui, dans sa leçon au Collège de France, nous dit que la langue n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste, parce que le fasciste, c'est pas ce qui est interdit, c'est ce qui oblige à dire. Donc, la littérature peut tricher avec la langue, et c'est en cela qu'elle est valable. Et puis, tout d'un coup, il découvre cette phrase extraordinaire de Flaubert: « J'écris non pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui pourront se présenter tant que la langue vivra. » Il a le sentiment d'une sorte de fragilité de la langue, et il imagine, dans son dernier cours, écrire une œuvre filiale qui témoignerait, justement, de son désir, de son amour de la langue française. Donc, prendre conscience de la précarité des choses que nous aimons, ça peut être un acte politique, Jean-Pierre Le Goff.
Oui, enfin, c'est ce qui porte le politique. C'est-à-dire, ce dont on manque, c'est l'arrière-fond, j'allais dire, culturel et historique de la politique. C'est-à-dire, la politique s'est détachée de l'histoire, elle tourne à vide d'une certaine façon.
Très bien, ben, nous terminerons là-dessus. Je vous remercie, Roger Scruton et Jean-Pierre Le Goff. Alors, Roger Scruton, le livre que j'ai cité, How to be a Conservative, est publié chez Bloomsbury. Oui.
Et il va être traduit aussi.
Et il va être traduit en français. Et Jean-Pierre Le Goff, Mai 68, l'héritage impossible, est disponible à la découverte en collection de poche. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr, où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre La médecine face à la fin de vie. Mes invités seront Emmanuel Bernheim et Robert Moulias. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jean-Richard Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannanet. La baleine, fragile héritage, avec Michel Pastoureau.